Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Ce soir, on va voir un thème qui concerne tout le monde et certains d'entre vous sont malheureusement en proie avec ça. Vous avez du mal avec ça. Et ça va être bien parce que plusieurs seront délivrés. Vous savez, on le dit souvent lorsqu'on prie qu'on n'est pas là, le pasteur Bruno, moi-même et l'équipe, pour partager ou délivrer des messages, mais pour délivrer des vies. Parce que Jésus veut délivrer des vies. Pas une théorie, pas une philosophie, pas un bon message, mais il veut délivrer des âmes. Et sa parole est vivante. Et sa parole est efficace. Et sa parole libère. Et sa parole délivre. Et ce soir, on va parler d'un thème qui concerne tous. Parce qu'on a tous dans notre vie, dans le passé ou aujourd'hui et dans le futur, à lutter contre cet ennemi qui s'appelle la jalousie. Vous savez, la jalousie a été la cause ou est la cause de beaucoup de guerres. La jalousie a fait des millions de morts. La jalousie tue et la jalousie pue. La jalousie détruit les relations. La jalousie fait naître des querelles. La jalousie fait naître des disputes. La jalousie fait naître des guerres. La jalousie fait naître la suspicion, la critique, la médisance. La jalousie te vole ta destinée. La jalousie tue les amitiés. La jalousie, c'est un fléau. Un véritable fléau. Et j'aimerais juste qu'on puisse réaliser ceci. La jalousie, ce n'est pas qu'une émotion. La jalousie, ce n'est pas qu'un sentiment. La jalousie, c'est un esprit. Nombre 5, verset 14, nous dit ceci. Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée. Si le mari, là c'est un exemple dans la parole de Dieu, où on parle d'un esprit de jalousie. Donc gloire à Dieu, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que par le nom de Jésus-Christ, il nous délivre d'esprits mauvais. Ce n'est pas qu'un sentiment, c'est un esprit. La jalousie est un esprit. C'est un général dans l'armée de Satan pour détruire les vies, pour briser les relations. C'est son but. Il vise à détruire les relations. Et nous devons tous être très prudents en ce qui concerne la jalousie. Vous savez, la jalousie détruit tellement les relations qu'elle est à l'origine de toute querelle et dispute. Beaucoup de querelles et disputes. La Bible dit dans Jacques 4, verset 1. Je vais lire pour vous dans la version Semeur. Je ne sais pas si tu as le Semeur. Je vais lire pour vous dans la version Semeur. Elle explique bien cette version. Dans Jacques 4, verset 1. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? Ah, mon voisin, ça? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses et vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Ici, la Bible dit que les querelles, que les disputes, quand il y a un esprit de dispute dans un endroit, c'est qu'il y a de l'envie, des rivalités, de la jalousie quelque part. Quand un esprit de dispute est constamment là, c'est qu'il y a des désirs égoïstes, nous dit la parole de Dieu. Quelque part. On a beau mettre la faute sur les autres, Cela signifie que si on gratte bien, c'est peut-être qu'il y a de la rivalité, de l'envie ou de la jalousie quelque part. La jalousie, ici, la Bible dit, vous êtes meurtrier et vous vous consumez en jalousie et vous n'obtenez rien. Cela signifie que de la jalousie, c'est là qu'il y a des convoitises donc, qui naissent. La jalousie, c'est que lorsque tu envies quelqu'un d'autre, ou tu soupçonnes quelqu'un d'autre, ou tu envies le succès de quelqu'un d'autre. Déjà, si vous avez eu des frères et des sœurs en grandissant, la jalousie a dû sûrement frapper à vos portes. Ou cousins, cousines, ou camarades d'école. La jalousie, c'est lorsqu'on commence à se dire « Hey, pourquoi lui et pas moi ?» Et celui qui ne s'est jamais posé cette question-là, c'est qu'il a un esprit de mensonge. C'est pareil, c'est un autre problème, mais... Vous savez, la jalousie naît surtout lorsqu'il nous semble ou lorsqu'il y a. Lorsqu'il nous semble, parfois il n'y a pas, mais ça nous semble. Ou lorsqu'il y a des préférences et du favoritisme. Et ce soir, dans ce thème particulier, j'aimerais qu'on voit ensemble des réponses, qu'on trouve ensemble des réponses à cette question. Comment gérer son cœur lorsqu'il y a des préférences et du favoritisme? Ça vous dit ça? Comment gérer son cœur lorsqu'il y a des préférences et du favoritisme pour pas laisser la jalousie nous consumer? Parce que la jalousie, c'est un esprit. Donc il faut qu'on sache comment faire. Sinon, elle va nous bouffer nous et bouffer les autres autour de nous. D'abord, il est important de comprendre comment Dieu perçoit le favoritisme et les préférences. Je vais lire pour vous dans la version Semeur, Galates 2, 6, où il est écrit « Quelle a été à cet égard l'attitude des dirigeants les plus influents ?» L'apôtre Paul ici parle de Pierre, Jacques, Jean des apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ. Et il dit « Quelle a été leur attitude ?» En fait, ce qu'ils étaient alors m'importe peu. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Eh bien, ces gens très influents ne m'ont pas imposé d'autres directives. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Voilà ce que l'apôtre Paul dit en ce qui concerne Dieu. Maintenant, on va lire plusieurs passages. Tu peux mettre là les versets dans version Louis II. Matthieu 17, verset 1 nous dit « Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. » Marc 5, 37. Marc 5, 37. « Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. » Marc 14, 33. « Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. » Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais il prend toujours avec lui, toujours les trois mêmes disciples. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Lorsqu'on lit ces deux vérités bibliques, ils ont l'air de s'opposer. On dit « Dieu ne fait pas de favoritisme ». Mais quand on lit les évangiles, à chaque fois, Dieu avait 12 apôtres. Jésus avait 12 apôtres, pas 3. Et à chaque fois qu'il y avait une résurrection, qu'il y avait un truc de grandiose à faire, la Bible dit, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Quand il va être transfiguré sur le mont des Oliviers, où les disciples vont voir sa gloire, ils vont voir Jésus transfiguré, Moïse et Élie parler avec lui, c'est un événement ça les gars. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Pourtant Jésus prend à chaque fois les trois mêmes disciples avec lui, et il laisse les 9 mêmes derrière. Imaginez les 9, quand les 3 revenaient, ils disaient les gars, Mais là, les gars, tu n'as pas vu ça. T'es, franchement, la gloire de Dieu. Mais bon, il ne faut pas nous dire trop. Donc, sinon, Jésus va prier pour ressusciter quelqu'un. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et les neuf, il laisse là-bas toujours. Imagine les trois qu'ils arrivent. T'es, les gars, de résurrection power. Vous aurez dû voir comment Jésus a fait. Il a fait comme ça. Tu as mis la couverture. Il a dit tout le monde sortir. Nous, on était là et nous, on a prié. Nous, on a prié parce que nous, les gars, nous, on a la foi. Mais bon, bon, Dieu vous aime. Hein. Imaginez les neuf. En plus, Jésus savait qu'entre eux, dans les évangiles, souvent, ils essayaient de savoir qui était le plus grand. Donc, en prenant toujours les mêmes trois, il les aidait pas à savoir qui était le plus petit. Hein. Il savait. Il cherchait qui était le plus grand, qui était le plus grand. Et Jésus, toujours qu'avec quelque chose de grandiose à faire, Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi. Il n'a même pas calculé. Les neuf autres étaient là et ils restaient toujours là quand il y avait quelque chose de glorieux à faire. Eux, ils étaient dans les confidences quand Jésus, dans la frayeur et dans l'angoisse, dans l'intimité émotionnelle, Pierre, Jacques et Jean. Et les neuf, ils restent à terre. Enfin, dans le jardin. Imaginez le cœur des neuf. Ah, le pasteur, là, tout le temps, il y avait les mêmes mounes à 15. Favoritisme, pas favoritisme. Qui dit favoritisme? Qui dit pas favoritisme? Qui dit rien du tout? Vous savez, Jésus est vraiment surprenant. Nous, dans le monde, on n'est pas comme ça. Si on dit, écoute, il faut que tout soit égal, il faut que tout soit égaux. Donc, si tu as pris ces trois-là, Pierre, Jacques et Jean, aujourd'hui, pour faire un grand miracle, demain, tu as encore neuf autres disciples. Demain, prends un peu André, prends un peu Philippe, prends Barthélemy un petit coup avec toi. Comme ça, chacun voit un petit peu, chacun grandit à peu près pareil. Écoute, il faut que tout soit égaux. Tu comprends? Pareil pour tout le monde, pareil. Jésus ne s'est pas excusé à chaque fois en essayant de s'expliquer. Écoutez les gars, je prends toujours les trois mêmes disciples parce que, écoute, je vous aime bien, mais je ne veux pas que vous soyez trop offensés. Donc comprenez que cette fois-ci, c'est vous, c'est eux. Peut-être que la prochaine fois, si vous gardez votre cœur. Jésus n'est pas là-dedans du tout. Tout le temps, Pierre, Jacques et Jean, venez. Pierre, Jacques et Jean, venez. Pierre, Jacques et Jean, venez. Et les neuf, dis-nous alors. Sans compter que Jean, tellement aimé de Jésus, que lui, quand il écrit l'évangile de Jean et qu'il parle de lui, il s'écrit de lui-même, Jean, le disciple que Jésus aimait. Lui, il va loin, lui. L'évangile de Jean, c'est lui qui a écrit. Et quand il parle de lui, il dit, Jean, le disciple que Jésus aimait, pour bien souligner que tu vois ce disciple-là. Okay, bah, lui, Jésus aimait. Quoi. Si tu n'as pas compris, débrouille-toi, mais lui, là, lui, il avait compris, lui. Quand il fallait demander à Jésus qui allait le trahir, même Pierre n'osait pas. Et il dit à Jean, fais l'affaire. Jean qui était à côté de Jésus, dit, Seigneur, c'est qui? Et les gars avaient des problèmes de rivalité, les gars avaient des problèmes. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, quand je vois les disciples, tout ce qu'ils ont fait, et avec tous les défauts qu'ils avaient, ça me rassure. Parce que Dieu ne cherche pas à ce que nous soyons parfaits. Mais il veut nous parfaire. Et les disciples, à ce moment-là, ils sont pleins de conflits, pleins de rivalités, pleins de querelles. Et Jésus ne cherche pas à s'excuser pourquoi il prend les trois et pas les neuf avec. Cela signifie que Dieu ne voit pas les choses comme nous. Et pour que nous ne soyons pas victimes de la jalousie à cause des préférences selon nous ou du favoritisme, il est bon que nous puissions voir les choses selon Dieu. Sinon, on risque de galérer avec notre cœur et la jalousie qui risque de frapper fort. Vous savez, nous devons comprendre d'abord que Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste. C'est pas parce qu'il prenait les trois et pas les neuf que Dieu est injuste. Parce que Dieu dit, À ceux qu'il a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. À ceux qu'on a donné peu, il sera peu demandé. Ce qui signifie que ces trois-là, ils ont reçu beaucoup. Ils avaient intérêt de donner un paquet aussi après. Parce que sur terre, ça paraît pas juste. Toujours lui, toujours elle, jamais moi. Mais Dieu lui voit pas les choses comme ça. S'il y en a un qui gagne 5 talents, Dieu veut qu'il rende 5 talents. S'il y en a un qui a 2 talents, Dieu veut qu'il rende 2 talents. S'il y en a un qui a 1 talent, Dieu veut qu'il rende 1 talent. Le problème, c'est quand celui qui a 1 talent jaloue celui qui a 2, et quand celui qui a 2 jaloue celui qui a 5. Parce que ça paraît pas juste. Mais je vais vous dire, on dit qu'on est tous égaux. C'est pas vrai. Moi, quand je suis né, eh ben Dieu m'a pas créé avec des jambes aussi rapides qu'Usain Bolt. Et aucun d'entre nous, à moins qu'il y ait une révélation bientôt, n'est aussi rapide qu'Usain Bolt sur le 100 mètres. Il a été programmé pour ça. Donc ça signifie que on ne naît pas tous avec les mêmes dons, avec les mêmes talents. Et c'est important de réaliser ça. Très important. Parce qu'il a donné plus aux trois, il va demander donc plus aux trois. Il est important aussi pour nous de réaliser, de bien comprendre que Dieu aime tout le monde. Il aime tout le monde. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu t'aime fort. Cependant, il ne fait pas confiance à tout le monde de la même manière. Dieu aime tout le monde. Mais il ne fait pas confiance à tout le monde de la même façon. Et ça, c'est très, très, très important de ne jamais oublier. Quand il donne à celui qui a 5 talents, le talent de celui qui en a 1, connaissez la parabole? Il y en a un qui a 5 talents, il multiplie la 5 talents, ça lui fait 10 talents. Il y en a un qui a 1 talent, qui n'a pas multiplié. Et Jésus reprend celui qui a 1 talent et redonne à celui qui a 10. Bec à l'inette. Donne à celui qui a 4. Peut-être que... Nous, on pense comme ça, nous, hommes. Nous, on pense comme ça. Ça rétablit un petit peu l'équilibre. Donne à celui qui a 4. Jésus dit, ôtez celui qui a 1 talent et donnez-lui à celui qui a 10 talents. Parce que celui qui a 1 talent n'a même pas su gérer le 1 talent qu'il avait, alors que les 10 a prouvé sa fidélité avec 5 et 10. Et Dieu lui dit, on va donner à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que souvent nous avons des choses que Dieu nous donne, mais nous ne voyons même pas la valeur de ce que Dieu nous a donné. Et donc nous ne travaillons pas à ce que Dieu nous a donné. Et l'ennemi vient vol. Parce qu'on n'a pas compris que ce qu'on a déjà reçu est hyper important aux yeux de Dieu. Et comme on a un, on se dit, ben oui, mais moi je veux 5. Ou comme on a un, on se dit, moi je veux 10. Parfois les gens reçoivent la parole de Dieu qui a les moyens de les sauver. Une semence. Mais ne la garde pas parce qu'il se dit, moi je suis pas comme le prophète. Le prophète, lui, il entend Dieu, mais moi je n'entends pas. Pourtant il est venu, il a entendu la parole de Dieu, la parole a été semée. Mais pourquoi il la garde pas? Parce qu'il ne considère pas la valeur de ce qui lui a été donné. Il n'a pas vu, il n'entend pas et il ne voit pas. Donc l'ennemi vient et ôte cela. Je prie pour que ce soit pas comme ça pour chacun d'entre nous ici dans ce lieu. Parce que tu es né avec des talents. Tu es né avec une destinée. Tu es né avec des dons. Tu es né avec une bénédiction que Dieu a pour toi. Et ça, c'est important de ne jamais oublier. Donc oui, Dieu ne donne pas peut-être le même nombre de talents, le même nombre de dons. Peut-être pas tout le monde a la même mesure de bénédiction. Mais écoute bien ceci. Dieu donne à chacun, que tout le monde dit chacun. Dieu donne à chacun ce qu'il a besoin pour accomplir la destinée à laquelle il est appelé. Pas besoin de roder celle du voisin. Dieu donne à chacun ce qu'il a besoin pour accomplir la destinée à laquelle il est appelé. Dieu n'a pas appelé Pierre, Jacques et Jean à la même fonction que les neuf autres. Est-ce que ça signifie qu'il préfère Pierre, Jacques et Jean? Non! Ça signifie que la mesure de responsabilité qui leur est confiée est plus importante. Mais ça ne signifie pas que Dieu les aime moins. Je vais vous prendre un exemple très, très, très simple. Qui a des enfants dans ce lieu? Deux, trois enfants. Amen. Vous savez que vous avez des enfants. Est-ce que, en tant que parents, normalement, qui aiment Dieu, on est censé aimer tous nos enfants pareil? Dangereux, dangereux de faire du favoritisme. Et pourtant, même si on aime nos enfants pareil, il serait aussi dangereux de tous les traiter pareil. Parce qu'ils n'ont pas la même maturité, parce qu'ils n'ont pas le même âge, parce qu'ils n'ont pas le même sens de la responsabilité. Je prends un exemple simple. On n'habite pas loin de l'école de mes enfants. Si j'envoie Nathan, mon premier, à l'école, je lui dis, écoute mon coco, ben, papa te regarde de loin, tu peux traverser la route, regarde à droite et à gauche. Donc je le laisse plus libre de partir que mon petit Matisse. Parce qu'il est plus, lui, il est moins responsable, il a moins le sens de la responsabilité. Plus jeune encore, plus immature. Donc je ne peux pas lui confier autant de responsabilités que je confie à Nathan. Mais cela ne fait pas de moi un papa qui aime plus Nathan ou Matisse que Nathan. Mais Matisse peut venir me voir et me dire, papa, lui tu laisses aller tout seul. Mais moi non. Le jeu cause comme ça, je serais content. Ça va venir, ça va venir. Il commence, commence, commence. Mais je m'imagine qu'il dirait ça. Lui, tu laisses. Donc tu l'aimes plus. Et le problème, c'est que l'Église, en tant qu'enfant de Dieu, on est comme ça. Lui, tu aimes plus. Parce qu'il semble qu'il a plus de responsabilités. Faux! Dieu ne fait pas de favoritisme. Le fait, c'est qu'il ne fait pas confiance à tout le monde pareil. Cela dépend de ta destinée, de ton appel. Cela dépend de ta maturité. Cela dépend aussi des preuves dignes de confiance, du prix que tu as déjà payé et que l'autre n'a pas encore peut-être payé. C'est comme si l'enfant disait, tu vois, il y en a un, les deux passent le permis, un gagne le permis, l'autre ne gagne pas le permis. Et tu prêtes la voiture, bien sûr, à celui qui a le permis. Et celui qui n'a pas le permis, il dit, tu fais des préférences. Franchement, tu fais des préférences. Papa, maman, vous faites des préférences. J'ai l'âge pour le permis. Et c'est toujours à lui que vous donnez la voiture. Ben, tu n'as pas encore été approuvé. Et en tant qu'enfant de Dieu, souvent on réagit comme ça. La jalousie est un fléau et c'est un esprit dangereux qui pourrit la vie, qui pourrit la vie, qui pourrit les relations. Un autre danger concernant la jalousie, c'est bien sûr lorsqu'on a tendance à se comparer. Ça, c'est une tendance charnelle. On aime se comparer. On aime se comparer à ce qui est plus petit, ce qui est plus grand, ce qui est plus loin, ce qui est moins loin. Tout est bon pour un sujet de comparaison. Oui ou non? Et pourtant, la Bible dit que ce n'est vraiment pas bon de se comparer. Voilà ce qui me fait rire, par exemple, lorsque, imagine une femme avec son mari, elle marche ou sinon, on regarde un film, je sais pas, et puis la femme dit, il y a un mannequin à la télé, et puis la femme dit, c'est elle ou moi qui est plus belle? À son mari. Et elle ne comprend pas que là, ça se peut qu'elle fait mentir à son mari. Pas bon. Elle fait mentir à son mari. Le mari fait, tu sais, elle est bien, mais toi, tu es très bien aussi. Vous êtes tous les deux bien. Mais qui tu préfères? Toi, chérie. Donc tu préfères moi, mais qui est la plus belle? se compare constamment. C'est pas bon. Il n'y a personne d'autre comme toi. Je te rassure, personne d'autre ne peut être toi. Même pas un acteur. Même pas un clone. Personne d'autre ne peut être toi. Et la Bible dit qu'il est fou, qu'il n'est pas sage, qu'il est même stupide de se comparer. 2 Corinthiens 10, 12 nous dit ceci. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Se comparer, c'est manquer d'intelligence. C'est pas moi qui ai écrit, hein, c'est l'apôtre Paul. Donc ne perdons pas notre temps à essayer d'avoir ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre. Parce que Dieu a des choses aussi pour toi, spécifiquement pour toi. Il a des choses pour toi. Donc cherche ce qui est à toi. Amen. Regarde ton voisin, tu lui dis, personne d'autre ne peut être toi. Alors, prends plaisir à être toi-même. Vous savez, la jalousie est destructeur. Il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. On ne pourra pas tous les voir. Mais je vais vous prendre un exemple. Imaginez le roi Saül à l'époque. Il est roi. David a tué Goliath. David joue de la harpe pour lui, de la musique, la lutte, tout ça. Parce qu'il est tourmenté par un esprit mauvais. Quand David joue, il est rempli de paix. Quand David va conduire les armées, il est victorieux. Le roi Saül aime le roi David. Il est content. Il aime le roi David. Si c'est mon guerrier, c'est mon soldat, tout va bien, c'est mon soldat. Jusqu'à ce que il entend les femmes de Jérusalem. Ben, quelles sont les femmes? Les femmes de Jérusalem chantaient. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Et c'est une chanson qui n'a pas plu. Il se retourne et il dit quoi? Les femmes chantent, moi j'ai tué 1000 et David 10 000. Et la jalousie rentre dans son cœur. À partir de ce moment-là, il a détesté David. Détesté David. David lui a rien fait de mal. Vous savez, lorsqu'on commence à soupçonner ou critiquer quelqu'un qui nous a rien fait de mal, regardons notre cœur. Peut-être que se manquer, se pourrait qu'il y a un peu de jalousie. Tu connais pas la personne, tu vois la personne passer en gros loto. Intéressant. Franchement, moi si j'étais lui, je n'aurais pas acheté un gros loto comme ça. Parce que je suis humble. Tu connais pas la personne, tu connais pas ses moyens, tu connais pas si elle a trinqué pour arriver là, tu connais pas si c'est quelqu'un qui lui a offert la voiture. Quand quelqu'un commence, ou si ton cœur commence à s'élever comme ça, et tes yeux regardent, et là tu crois que c'est du discernement, tu crois bien discerner, c'est la suspicion, c'est pas du discernement. Tu commences à dire, d'accord, lui il est ouin, mais tu sais, franchement, j'aime pas trop sa façon de parler. Faut faire attention. Quand tu connais pas une personne et que tu commences à mal parler, scrute ton cœur. Lorsque Dieu élève un autre et que toi tu sens être oublié, ton cœur va commencer à s'agiter. L'ennemi aime ça, ce genre de circonstances-là. Il aime. Et il regarde comment on va réagir. Vous savez, la jalousie tue les gens qui n'ont rien fait de mal. Ils sont jaloux, juste jaloux, parce que Dieu les a bénis plus qu'eux. Les pharisiens de l'époque ont menti sur Jésus parce qu'ils étaient jaloux. Les foules le suivaient. Donc ils commençaient à le critiquer, à mentir pour le mettre à mort. La Bible dit qu'ils étaient jaloux. La jalousie tue. Elle fait naître les querelles et les disputes. Elle brise les relations. Elle cultive la peur. Et elle cultive une mauvaise perception de l'autre. C'est pas bon. Comment tu ne peux pas aimer une personne que tu ne connais pas vraiment? C'est qu'il y a un souci. Elle déforme la perception. Il y a un exemple extraordinaire dans la parole de Dieu. De jalousie flagrante. Là, le papa, malheureusement, il a mis les pieds dans le plat au niveau de la jalousie. Il a fait une grave erreur. Il a fait du favoritisme flagrant. Et j'aimerais qu'on puisse s'inspirer de cet exemple-là pour qu'on puisse être encouragé. Et après, on va avoir quelques points pour terminer, pour aussi être libéré. Parce que beaucoup de cœurs ont besoin d'être libérés de la jalousie. Beaucoup de cœurs ont été blessés, beaucoup de cœurs ont été brisés par des relations passées, par ce qui s'est vraiment passé, par du favoritisme flagrant, par des préférences flagrantes. Et les cœurs ont été meurtris. Et la jalousie est venue et a déformé la perception. Et l'envie est venue, et les rivalités sont venues, les querelles sont venues. J'aimerais prendre l'exemple de Joseph, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Genèse 37, verset 3, s'il vous plaît. Genèse 37, 3 nous dit « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. » Aïe, aïe. « Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et qu'il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. » Ça, c'est mal. Mais malheureusement, la majorité d'entre nous ici, nous avons vécu et grandi souvent avec des préférences dans les familles. Les préférences à l'école. Le professeur préfère un tel. Et toi, tu essaies d'être préféré, tu n'es pas préféré. Et ça a affecté plusieurs. Beaucoup n'ont pas su comment gérer cela. Ici, c'est un exemple terrible. Jacob, Israël, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et lui fait une tunique de plusieurs couleurs. C'est terrible. Rappelez, pour la plupart d'entre vous, donc l'histoire de Joseph. Joseph est le fils de Jacob, le 11e, il me semble. Après lui, il y a Benjamin. Et Israël a fait une préférence tellement flagrante qu'il lui a mis une tunique de couleur. Imaginez-vous ça. Et vous savez que Joseph, pour arranger les choses, il leur a raconté son rêve. C'est encore un autre, lui. Et il a été vendu par ses frères, jeté dans la citerne, esclave chez Potiphar, jeté en prison, enfin bref, ça pendant plus d'une dizaine d'années, une douzaine d'années, séparé de sa famille, à cause de la jalousie. La jalousie a poussé les frères de Joseph à le vendre aux esclaves. C'est vrai, pourquoi Joseph était préféré de Jacob? On pourrait dire ceci. On pourrait dire que Jacob, il aimait Rachel plus que Léa. Et avec Léa, il avait plein de fils. Mais avec Rachel, il n'arrivait pas à en avoir. Et Rachel a pleuré, elle a soupiré des années pour que Dieu la touche. Et qu'elle puisse enfanter, qu'elle ne soit pas stérile. Et au bout de quelques années, elle a eu un fils. Elle a eu Joseph. Et Joseph arrive. Et lorsque Jacob voit Joseph, il pense à Rachel. Comprenez ? Il pense à la femme qu'il aime. C'est le fruit de leur union. C'est elle qu'il a toujours aimée. Le gars a tellement aimé cette femme-là qu'il a travaillé pendant 7 ans. Elle a dit 7 ans est passé comme un instant. T'es là, il faut aimer là. Là, il faut vraiment aimer fort. ses temps comme ça parce qu'il a dit, ok, je reprends ses temps pour voir Rachel. Tellement il l'aimait. Et il n'avait pas de fils avec elle, pas d'enfant. Et là, il y a Joseph qui arrive. Il est tellement content dans sa vieillesse. Il a enfin le fruit de cette union avec Rachel. Joseph, il n'a rien demandé. Il gagne la tunique, il gagne les honneurs du papa. Il n'a rien demandé, c'est pas de sa faute. Et il est pris pour cible par ses frères. Donc déjà, quand il y a du favoritisme, c'est pas la faute de celui qui est favorisé. Ses frères n'arrivaient pas à survivre au succès de Joseph. Joseph avait la faveur. Et vous savez l'histoire. Donc Joseph, par la grâce de Dieu, n'a jamais gardé rancœur. Il est devenu ensuite, il avait la faveur de Dieu même chez Potiphar en tant qu'esclave. Il est devenu l'administrateur principal. La femme de Potiphar a menti sur lui. Il part en prison. Et en prison, il a encore la faveur de Dieu. Et là, il interprète les rêves de certains prisonniers. Et par la grâce de Dieu, il devient premier ministre aux côtés de Pharaon. Ses frères qui avaient peur du succès de Joseph dans la famille, du coup, cette fois-ci, tremblent devant lui parce qu'il est dans la famille en Israël. Et ils reviennent quand même devant Joseph, qui maintenant a encore une plus grande faveur. Ils sont cuits. Mais Joseph a gardé son cœur. Joseph n'a jamais laissé la jalousie de ses frères le rend amer. Jamais. Il comptait sur la grâce et la faveur de Dieu. Tu sais quoi? On peut voler ta position. On peut te mettre en prison. Mais on ne peut pas voler ta bénédiction. On peut prendre ton statut social. Mais on ne peut pas prendre ta faveur que Dieu t'a donnée. Celui qui a la faveur de Dieu, qu'il soit dans la citerne, qu'il soit chez Potiphar, qu'il soit en prison ou qu'il soit ministre auprès de Pharaon, il a la faveur de Dieu. Qu'il soit en haut, qu'il soit en bas, il a la faveur de Dieu. Et Joseph avait compris ça, que ceux qui étaient jaloux pouvaient lui mettre des bâtons dans les roues, essayer de lui voler sa bénédiction. Mais il pouvait voler sa position. Il pouvait déchirer sa tunique. Mais il ne pouvait pas voler sa faveur. Ça, c'est bon, ça. Il ne pouvait pas voler sa faveur. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'a donné sa faveur. Même en prison, il a prospéré. Donc comment faire pour gérer notre cœur lorsqu'il y a du favoritisme? Très simple, je vais vous rappeler quelques points pour clôturer. Très simple. Premièrement, je vous ai dit, ne voyez pas la jalousie, le favoritisme, comme le monde, mais comme Dieu. Dieu est juste. Et même s'il semble que quelqu'un est favorisé, c'est parce qu'il a une plus grande responsabilité dans sa destinée. À un moment donné. C'est pour ça que Jésus prenait que les trois. C'est pour ça que Joseph avait été favorisé, parce qu'il était appelé à bénir sa famille. Ensuite, on a vu donc que Dieu aime tout le monde, mais qu'il ne fait pas confiance à tout le monde de la même façon. N'oubliez jamais ça. On a vu une autre chose. Personne ne peut être toi. Prends plaisir à être toi-même. Que tu as 5 talents, que tu as 2 talents, que tu as 1 talent, cherche à multiplier ton talent. Autre chose, attention à la comparaison. Ne te compare pas à soi-toi. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Mais j'aimerais aussi vous donner 2 points supplémentaires. Prie pour recevoir le discernement de l'esprit. C'est un des dons d'un Corinthiens 12. Quand la Bible parle du discernement de l'esprit, il ne parle pas de discernement des mauvais esprits. Il parle aussi de discerner les bons esprits. C'est-à-dire discerne la faveur de Dieu quand elle est sur la vie d'un homme ou d'une femme. Si tu as compris que c'est la faveur que Dieu a placée sur tel homme ou sur telle femme, et que tu sais que ça vient de Dieu, et que toi tu aimes Dieu, tu ne vas pas mettre tes mains dedans. Quand à l'époque, même les guerriers de David, forts, avaient vu que c'était David que Dieu avait oint roi, ils n'avaient pas envie d'être roi à la place de David. C'est Dieu, ok, c'est toi qui as la faveur. Let's go. Discerne la faveur de Dieu dans la vie des autres. Cela peut te préserver de la jalousie. Car si tu sais que cela vient de Dieu, tu n'auras pas envie de maltraiter ce que Dieu fait. C'est très important. Sois aussi confiant de ce que Dieu a pour toi. La jalousie, écoutez bien ceci. La jalousie dit, si Lot a de la faveur, c'est parce qu'il me l'a volée. La jalousie dit, si Lot a de la faveur, moi j'en aurai plus assez. C'est menteur. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est capable de te donner à Jérémie un paquet de faveurs, à Cédric un paquet de faveurs, à Philippe un paquet de faveurs, et à chacun d'entre nous un paquet de faveurs. Le problème, c'est nous ne sommes pas habitués à voir ça comme ça. Donc nous ne discernons pas. Et lorsque nous voyons quelqu'un avec plein de faveurs, on se dit, n'a plus pour moi. Il a pris tout. Pareil, Joseph, la tunique. Et on n'est plus confiant dans ce que Dieu a pour nous. Et on ne sait pas attendre. Quand tu vois que quelqu'un a plus de faveurs que toi, tu sais, au lieu de t'opposer à cela, si tu as vu que ça venait de Dieu, je t'encourage. Serre-le. Réjouis-toi avec la faveur qu'il a. Crois-moi, tu vas gagner une mesure en plus que Dieu, celle que Dieu a pour toi. En plus de celle que Dieu a pour toi, tu vas gagner une mesure de la faveur que lui il a. C'est gaillard, hein? C'est très important ça. Au lieu de dire tout le temps les trois là, tout le temps tout de même. De te dire, hey, si Dieu lui a donné la faveur à lui, oh, moi, au mieux de m'opposer avec la jalousie, oh, c'est en servant et en me réjouissant avec celui qui est favorisé. C'est comme ça qu'au temps convenable, j'ai confiance dans ce que Dieu a pour moi et quand le temps va arriver, yes, 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 yes. Je prendrai ce que Dieu a pour moi. Mais prends pas ceux des autres. Sers. Alors tu reçois une mesure. Ça, c'est intelligent. Vous savez, est-ce que vous voulez savoir si des fois votre cœur vacille avec la jalousie? Vous voulez savoir? C'est lorsqu'une personne est extrêmement bénie, regarde comment tu te réjouis. C'est lorsqu'une personne est extrêmement bénie, regarde comment tu te réjouis. Si tu fais, t'es n'importe quoi, t'es franchement, mais bon, miam à lui, mais... Regarde la case, lui, nana, lui. Regarde la maison. Réjouis-toi pour celui qui est favorisé. Ton temps viendra. Regarde ton voisin, dis-lui, ton temps viendra. Pourquoi il faut réagir comme ça? Parce que si on réagit avec jalousie, déjà tu ne pourras pas recevoir ce qui ne t'appartient pas. C'est pas pour toi. Les frères de Joseph n'étaient pas appelés à être premier ministre comme Joseph. Mais ils avaient leur mesure de faveur. Judas était appelé à, dans sa lignée, à faire naître le Messie. Il était appelé à porter l'autorité dans toute la famille. C'est pas rien ça. C'est gaillard aussi. Et quand on regarde la bénédiction de toute la famille, chacun a une mesure de faveur énorme. Faveur sur faveur, bénédiction sur bénédiction. Mais ils n'ont pas compris au départ. Parce que la faveur de Joseph s'est manifestée trop tôt. Mais c'était pour libérer leur faveur à eux. Au temps convenable. Ils ont réagi avec jalousie. Et heureusement que Joseph a bien réagi. Sinon, ils auraient perdu gros. Je terminerai sur ce point. Transforme la jalousie qui vient du diable en jalousie qui vient de Dieu. Hein? Est-ce que Dieu est un Dieu jaloux? Oui. Mais pas la jalousie selon la chair qui fait naître les querelles et les disputes. Pas la jalousie qui se manquait suppose avant que ça arrive. Dieu est jaloux quand les faits se sont accomplis plusieurs fois, qu'il a déjà pardonné plusieurs fois, que le peuple reste idolâtre et veut pas l'adorer. Dieu dit maintenant, tu excites ma jalousie parce que tu adores d'autres dieux depuis trop longtemps. Moi je t'ai aimé, moi je te pardonne et tu veux pas venir à moi. La jalousie de l'homme, c'est que tu supposes ou présupposes avant même de connaître, de soupçonner, avant que ça arrive. Et tu déformes l'image et les relations sont affectées, les querelles arrivent. La jalousie de Dieu fait naître de bons fruits. Romains 11, verset 14 nous dit ceci. Afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Oh. Ici l'apôtre Paul dit, vous savez quoi? Dans ce que Dieu m'a donné, il m'a tellement donné de faveur que ce que Dieu va faire, c'est que je vais bénir les peuples païens. Les peuples païens vont tellement resplendir de la faveur de Dieu que le peuple juif va être excité avec une sainte jalousie. Et ils vont se dire, c'est ça qu'on veut. Cette gloire-là qu'on veut. C'est cette paix-là qu'on veut. C'est cet amour-là qu'on veut. C'est cette joie-là qu'on veut. C'est cette liberté-là qu'on veut. C'est ces fruits-là qu'on veut. Hey, c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. C'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Dieu veut rendre son église attirante. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut rendre le monde jalouse de l'église. En disant, là-bas il y a l'amour, là-bas il y a la paix, là-bas il y a la joie. C'est ce que Dieu veut. La jalousie de Dieu, elle provoque aux bonnes œuvres. Elle provoque à la repentance. La jalousie de Dieu, ça imite les principes. Que tu vois un homme de Dieu loin, n'essaie pas d'être lui, sois toi. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour être loin? Quelle est sa discipline de vie? Quelle est la qualité de sa vie de prière? Comment il aime les gens? Imite les principes. Si tu es provoqué par son onction, c'est bien. Et sois loin à ton tour. Il y a une bonne jalousie. Elle provoque à nous faire grandir dans l'amour. Elle nous provoque à nous rapprocher de Dieu. Si que tu as un ministère puissant qui arrive, la puissance de Dieu se manifeste, tu fais, t'es là, j'ai prié un peu plus. Là, prié, jeûné, je dis là, j'ai un peu plus de miracles dans ma vie. Non. Elle provoque aux bonnes œuvres la jalousie de Dieu. 2 Corinthiens 11, 2 nous dit ceci. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Sois délivré de la captivité, de la prison, de la jalousie. En pardonnant comme Joseph, en bénissant comme Joseph, à tous ceux qui t'ont causé du trouble. Vous savez, le vrai test de Joseph, ce n'était pas lorsqu'il était uniquement en prison. C'est lorsqu'il allait faire face à ses frères. Et quand ses frères viennent, ils ont peur. Parce que Joseph avait l'autorité pour les exterminer tous. Et ils ont peur, là ils tremblent. Ils ont voulu le tuer. Et quand ils arrivent, ils ont peur. Joseph dit, mais ne vous inquiétez pas. Dieu s'est servi du mal pour faire le bien. Et moi aussi, je veux vous faire du bien. Quand quelqu'un goûte à la faveur de Dieu, comme beaucoup ici dans ce lieu, et que vous avez goûté à sa bonté, vous n'avez pas envie de faire du mal. Même à ceux qui vous ont fait du mal. Vous avez envie de leur dire, laisse tomber. Si tu ne m'aimes pas, je suis désolé pour toi, mais moi je t'aime, je t'en veux pas. C'est pas grave, Dieu est avec moi. Si tu es pour moi, qui sera contre moi? Toi? Qu'est-ce que tu racontes? Dieu est avec moi. Et Dieu est avec toi. Provoquer. Transforme ta jalousie malsaine peut-être qui veut détruire en une jalousie qui te rapproche de Dieu. Je dis qui veut marcher dans les miracles comme Smith ou Goldsworth? Levez la main. C'est très bien. Je lis un livre de cet homme de Dieu là qui a ressuscité 14 morts. Comme disait Pasteur Bruno, il a pris un bébé qui était mort. Il arrive aux funérailles, il prend un bébé et il donne un coup de pied au bébé. Mort, le bébé dans le mur. Il faut entendre Dieu pour faire ça. Le bébé s'est ressuscité la première fois parce qu'à mon avis, les parents n'auraient pas laissé faire ça deux fois. Et quand le bébé touche le mur, dans ouah, ouah, ouah. Mais ça provoque. J'espère en tout cas. Tu es wow! Tu es puissant comme un don. Oui! Ça provoque. Là, c'est pas une jalousie malsaine. C'est un désir de dire, hey, Seigneur, je vais être zélé pour toi. Le mot jalousie, c'est le mot zèle, zélos. Si tu es zélé pour la bonne cause, avec les bonnes motivations, si tu dis, moi, je veux aimer comme Jésus aime, je suis choqué dans les évangiles quand on lit et qu'on m'envoie l'amour de Jésus. Je rêve d'aimer comme Jésus. Ça me provoque constamment. C'est bon ça. Quand on chantait tout à l'heure un chant qui disait « Je veux marcher dans ta gloire comme Jésus. » C'est ça. Donc remplace cette jalousie. Si tu es zélé pour une jalousie qui te détruit, transforme-la en jalousie qui te construit.